Le point suivant, si vous voulez bien, je vais le laisser au débat, parce que je vois que l'heure passe terriblement vite. Si ça vous intéresse, eh bien, vous poserez une question. Mais celui-ci, je ne peux pas le laisser passer. Donc, je reviens à cette question de ni de gauche ni de droite. Je vais vous laisser apprécier vous-même. Moi, je vais vous montrer une série d'articles. Et vous apprécierez si vous estimez qu'ils sont neutres. D'abord, celui-ci. Et là, encore une fois, j'ai été assez déconcerté quand je l'ai lu. Parce que il ne faut pas avoir fait des études d'histoire des institutions européennes. Et quand je parle des institutions, je parle depuis le haut Moyen-Âge, pour savoir qu'avant même que les États existent dans nos pays, les communes avaient d'autres fonctions que celles qui sont énumérées ici. Assurer l'intégrité territoriale, maintenir l'ordre public, sauvegarder la sécurité nationale. Les communes fournissaient des services, les communes réglementaient, les communes redistribuaient. Et à partir du moment 15e, 16e siècle où les États apparaissent, les États remplissent ces fonctions de régulation, de distribution et d'opération. Elles ne sont pas considérées comme des fonctions essentielles. Les fonctions essentielles ici, c'est, ben, disons-le comme ça, c'est la loi et l'ordre. Je ne sais pas si vous connaissez Loïc Vacan, c'est un sociologue qui a été formé par Pierre Bourdieu. Eh bien, Loïc Vacan dit ça, c'est le passage de l'état-providence à l'état-pénitence. Alors, voici l'article 3. L'article 3, c'est l'article dont on parle le plus, que l'on cite le plus souvent. Et c'est normal, parce que c'est l'article qui contient, si vous voulez, le programme, qui décrit le projet européen. Donc, on va y trouver des choses auxquelles, je pense, 80-90% d'entre nous adhèrent. Quand on nous parle d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, qui serait contre, hein? Moi, j'ai un peu tiqué, mais je veux bien reconnaître que je suis un peu teigneux de temps en temps, parce que quand j'ai vu qu'on nous l'offrait. Ben oui, moi j'ai enseigné que la grande différence entre l'ancien régime et le passage à la démocratie, c'est que c'était fini des seigneurs et des monarques de droit divin qui daignaient concéder quelques droits, que les droits et les fonctions essentielles dans l'État venaient de la volonté du peuple. Enfin, on nous l'offre, c'est gentil, on l'accepte, merci. Jusque-là, ça va, enfin, comme ça, mais la suite me pose problème. C'est ce marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. Pendant le débat qui a eu lieu avant le référendum à l'intérieur du Parti socialiste, je me souviens, j'ai entendu Mme Guigou, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, que je considère qu'elle a été un bon garde des Sceaux, qui a essayé de faire des choses importantes, s'étonner, pour reprendre ses mots, s'étonner que l'on s'étonna de cette formule. Sans doute n'a-t-elle jamais eu l'occasion de voir les accords de l'Organisation mondiale du commerce. Moi, c'est mon métier, je passe ma journée à ça. Parce que quand on vous parle d'une économie de marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée, il faut être clair, on ne nous parle pas de l'économie de marché régulée, encadrée, limitée, que nous connaissons depuis 1945, même si on y a apporté de sérieux coups. Je sais bien que certains trouvaient que c'était pas assez régulé, ou d'autres qui trouvaient que c'était trop, mais c'est pas moi qui le dis, c'est un libéral qui est loin d'être un gauchiste, le couteau entre les dents, c'est M. Jean-Paul Fitoussi, qui est le président de l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui vient de publier un livre que je vous recommande chaudement, ça s'appelle « La politique de l'impuissance », qui dit que nous, Européens, pendant plus de 30 ans, on a fait la démonstration qu'il est possible de concilier une économie de marché régulée, encadrée, limitée, avec un fort taux de protection sociale. Et il déplore, il démontre que c'est déplorable qu'on ait tout lâché dans ce domaine-là. Quand on vous parle d'une économie de marché où la concurrence est libre et non faussée, on fait explicitement référence à l'économie de marché telle que veulent nous l'imposer les accords de l'Organisation mondiale du commerce. Vous pouvez vérifier vous-même. Si vous avez Internet, je vous invite à aller sur le site de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Vous faites www.wto.org. Donc, comme c'est en anglais, vous avez le menu en anglais qui apparaît. Vous allez du côté droit en haut, où vous allez voir français et espagnol. Donc, vous cliquez sur français. Et puis, alors, vous avez un menu en français où il y a beaucoup de choses indiquées, notamment documents. Avant de cliquer documents, si vous me permettez un petit conseil, prenez au moins 2 bons tubes d'aspirine et puis vous cliquez sur documents. Parce qu'une fois que vous aurez cliqué sur documents, vous avez les 22 500 pages des accords de l'OMC. Et là, qu'est-ce que vous trouvez ? Un accord sur les obstacles à la concurrence. Et vous avez la définition d'une économie de marché où la concurrence est libre et non faussée. Qu'est-ce qui fausse la concurrence selon les accords de l'OMC ? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas libre ? Les lois sociales, la fiscalité, les limites environnementales, ou même des législations ou des réglementations que tel ou tel pays peut prendre pour favoriser tel type de développement industriel, tel type de politique économique, pour se prémunir contre les investissements spéculatifs, pour favoriser tel type d'investissement. Savez-vous que l'on discute pour le moment à l'OMC, à Genève, à l'initiative des gentils Européens, pas des méchants Américains, à l'initiative des gentils Européens, on remet en cause une loi du Brésil qui dit que chaque fois qu'une entreprise étrangère investit 10 000 dollars, elle doit créer un emploi pour un Brésilien. C'est considéré comme une distorsion à la concurrence. Savez-vous que les États-Unis d'Amérique, dans les négociations sur la mise en œuvre de l'accord général sur le commerce des services, considèrent que le salaire minimum interprofessionnel garanti provoque des effets de distorsion à la concurrence dans le secteur des services. Quand on vous parle d'une économie où la concurrence est libre et non faussée, on ne vous parle pas de ce que nous avons connu et de ce que nous connaissons encore assez largement aujourd'hui. On vous parle d'une économie de marché sur le modèle que veut nous imposer l'Organisation mondiale du commerce avec le soutien de l'Union européenne et de nos gouvernements. Bon, maintenant, je continue la lecture de l'article 3. C'est ici qu'on voit les développements les plus intéressants. On nous parle que l'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe, fondée sur une croissance économique équilibrée, sur la stabilité des prix, sur une économie sociale de marché hautement compétitive qui tend au plein emploi et au progrès social, qui combat l'exclusion sociale et les discriminations, qui promeut la justice et la protection sociale. Tout y est. Que veut-on de plus ? C'est bien. Je ne critique pas. À la limite, même si on peut ergoter sur un certain nombre de mots et voir des contradictions entre des concepts différents, je signerais s'il n'y avait pas 445 articles après. Le problème, c'est que c'est l'article 3 et qu'il en reste 445. Parce que qu'est-ce qu'on va voir dans les 445 articles qui suivent ? Mais vous allez voir, j'ai mis en rouge économie sociale de marché hautement compétitive, vous allez voir décliner toutes les conditions, toutes les contraintes pour que ce soit une économie de marché hautement compétitive, mais vous verrez qu'il est impossible qu'elle soit sociale. D'ailleurs, profitez de cet instant de grâce. Économie sociale de marché, c'est la première et la dernière fois que vous le verrez en 448 articles, ce n'est cité qu'une seule fois. Après, elle sera toujours une économie de marché, mais elle ne sera plus jamais sociale. Regardez bien, c'est l'article 3. Hein ? Regardez. Article 177, aux fins énoncées à l'article 3. Donc, pour appliquer tout ce beau programme, super sympa. Il faut que les États se comportent d'une manière qui respecte une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. On a subordonné des objectifs respectables qui appartiennent à notre identité européenne à une économie de marché sur le modèle des accords de l'OMC. Et si vous n'avez pas compris, ben ils ont pris leurs précautions, ils en ont remis une couche. L'article suivant nous dit la même chose. Le 178 répète ce que le 177 disait et ça va devenir comme un refrain, si vous voulez, pour une étrange chanson, mais enfin, ça va devenir un refrain puisque on va le citer plus de 68 fois. On va l'appliquer au système bancaire et ici, permettez-moi de m'arrêter à un article qui ne vous est pas inconnu puisque vous l'avez vu, en tout cas un certain nombre d'entre vous, il y a 13 ans. C'était dans le traité de Maastricht. Mais je reviens sur ce que Giscard disait, on ne devrait pas parler de certaines choses qui sont dans les traités existants, en voilà une. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 13 ans, ça a déjà provoqué un débat. Moi, je ne suis pas un économiste. Et donc, je, en toute honnêteté, quand j'ai commencé ce travail de décodage du texte en juillet de l'an passé, mais je suis allé voir des économistes. Parce que je ne savais pas, je vous l'avoue, si l'indépendance de la Banque Centrale Européenne était une bonne ou une mauvaise chose. J'avais plutôt l'impression, mais c'était un sentiment, c'est pas un acte raisonné, qu'un organe dans l'État qui est indépendant, c'est-à-dire qui échappe à tout contrôle, en démocratie, ça fait un peu problème. Mais enfin, je me disais, c'est peut-être une bonne chose puisqu'il s'agit de la gestion de la monnaie. Je suis allé voir des économistes un peu de toute opinion. J'ai été voir M. Fitoussi. Et j'ai été voir aussi des économistes libéraux manchestériens. C'est d'ailleurs un de cette catégorie-là qui m'a dit ce qui m'a le plus impressionné. Il m'a dit, comme citoyen, comme économiste, je considère que c'est une hérésie. C'est une hérésie comme citoyen parce qu'aucune institution dans l'État ne doit échapper au contrôle démocratique. C'est une hérésie comme économiste, c'est un professeur d'université, parce que, disait-il, nous enseignons à nos étudiants que l'économie est le résultat d'un panier de facteurs. Et isoler un facteur est une aberration. Isoler le facteur monétaire est une aberration si on veut avoir une politique économique. Donc, voilà un constat que le béotien en économie que je suis accepte. Et puis, il y a des choses qui sont quand même très apparentes. Là, en étudiant les textes, il ne faut pas être économiste pour se rendre compte d'une grosse différence. Ce qui est piquant, c'est qu'il faut aller dans la patrie du capitalisme pour pouvoir dénoncer les méfaits d'un texte européen. Parce que si vous comparez les statuts de la Banque fédérale des États-Unis avec ceux de la Banque centrale européenne, vous constaterez que les statuts américains sont plus européens que les statuts européens, dans la mesure où ça répond plus à quelque chose qui est caractéristique de l'Europe, où il faut contrôler tous les pouvoirs dans l'État. Le gouverneur de la Banque centrale américaine, de la Banque fédérale, M. Greenspan, qu'il parle ou qu'il se taise, vous savez que dans ces matières-là, causer ou pas causer, ça peut avoir des effets sur la bourse. Hein ? Qu'il augmente ou qu'il baisse les taux d'intérêt ou qu'il n'y touche pas, à tout moment, il est susceptible d'être convoqué par une commission de la Chambre des représentants ou du Sénat des États-Unis et de se justifier. Son collègue européen, M. Trichet, n'a de compte à rendre à personne. Moi, je ne l'ai jamais vu au Parlement européen quand il y avait des réceptions. C'est tout. Ça fait quand même une sacrée différence. Alors, j'ai essayé de me rappeler, mais pourquoi ? Et j'ai demandé à obtenir la transcription de cette émission. Parce que vous le savez, c'était le président Mitterrand qui avait négocié Maastricht et qui l'avait signé. Et je voulais me rappeler quels étaient ses arguments. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu un bon moment de télévision il y a 13 ans. Quand on a eu ce débat à la télé entre le président Mitterrand et M. Philippe Séguin, qui était à l'époque un leader de l'opposition. L'explication, elle était la suivante. M. Mitterrand a dit c'était le passage obligé, la condition sine qua non pour que les Allemands acceptent d'abandonner le Deutsche Mark et d'entrer dans l'euro. Et c'était vrai. Ce qui n'a pas été retenu, c'est ce qu'il a ajouté, que je ne m'en souvenais pas, mais je l'ai relu, qui est très mitterrandien d'ailleurs dans les mots. Il a ajouté avec le temps, il faudra corriger cela. 13 ans plus tard, alors qu'on a l'occasion de le corriger, alors qu'il n'y a plus de problème avec l'Allemagne, qui a très bien intégré l'euro, on n'y a pas touché. Là, on fait un choix. C'est clair. Et on n'a pas touché non plus aux objectifs de la banque, qui sont seulement la stabilité des prix, alors que la Banque fédérale des États-Unis, elle, a des objectifs de plein emploi et de croissance économique. Voilà. Alors, petite synthèse. Le marché est cité 78 fois, la concurrence 27 fois, le progrès social 3 fois, et comme je vous le disais tout à l'heure, économie de marché n'est cité qu'une seule fois. À vous de vous faire une opinion sur la neutralité idéologique de ce texte.